Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Vous le savez, après ces consultations, il est tous les jours à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à une intervention que vous ne connaissez peut-être pas, l'abdominal etching. Une intervention qu'on va vous détailler bien sûr et qui permet aux hommes et aux femmes qui le souhaitent de sculpter leur ventre, de mettre en valeur les abdominaux, les fameuses tablettes de chocolat. Alors pour nous parler de tout cela dans le détail, nous recevrons le docteur Sébastien Garçon. Il est chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Ensuite, dans cette émission, nous ferons un focus sur le spina bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Jimmy nous expliquera ce que c'est, comment on dépiste ce problème durant la grossesse et puis vous verrez que c'est une malformation dont on peut diminuer le risque si la future maman prend certains compléments. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique psycho de Catherine Blanc aujourd'hui. Elle répondra à une maman d'une adolescente qui s'inquiète de l'image que donne sa fille sur les réseaux sociaux.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Mathieu.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. On m'a dit qu'on pouvait mettre du ciment dans le corps humain. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai vu le terme de cimentoplastie. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît ? Merci beaucoup.
Alors, pour répondre à cette question plus précisément, on s'est tourné vers le professeur Julien Girard. Il est chef de service de chirurgie orthopédique au CHU de Lille. On écoute sa réponse.
La technique de cimentoplastie, c'est aussi appelée vertébroplastie. La plupart du temps, en fait, c'est pour des patients ou plutôt des patientes qui ont l'ostéoporose, et donc une fracture ou un tassement d'une vertèbre qui, du coup, entraîne des douleurs de dos, donc des lombalgies qui, malheureusement, résistent au traitement médical. Et dans cette technique-là, c'est relativement simple à comprendre. On vient injecter, en fait, du ciment, donc de la résine, sous anesthésie locale chez un patient qui est à plat ventre et sous contrôle radiographique pour être sûr d'injecter le ciment, donc la résine, dans le corps de la vertèbre. On va venir donc l'injecter et ce ciment, en gros, durcit en 10 à 15 minutes. Donc le geste est relativement rapide et après, ça redonne la hauteur en fait à la vertèbre et le patient, dans l'immense majorité des cas, n'a plus de douleur dans les jours qui suivent l'acte.
Voilà, c'était le professeur Girard au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Jessica à Marseille qui nous l'a envoyée via Twitter. Jessica vous demande, Jimmy, votre avis sur le tabac qui pourrait être un protecteur vis-à-vis de la Covid, en tout cas de ses formes graves, dit-elle. On en est où là-dessus, nous demande-t-elle. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas? C'était sorti où cette histoire, Jimmy, d'ailleurs, de protection éventuelle on nous en avait parlé en avril. Mais
exactement, c'est des études plus anciennes sur la période mars-avril qui montraient que les fumeurs seraient épargnés du Covid et feraient des formes moins sévères. Alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est à chaque fois qu'on a une étude, est-ce que nous aussi, moi je m'inclus dedans, est-ce qu'on doit les relayer? Puisque malheureusement, des études, il y en a autant de bonnes que de mauvaises et donc il est très facile de porter de la confusion dans le message qu'on donne. Donc peut-être que nous, on doit faire attention avec ces études extraordinaires et surtout lorsqu'elles sortent de l'habituel. Si tout d'un coup, vous avez une molécule miracle, comme ça a été le cas avec la chloroquine, un truc qui n'a jamais fait preuve de son efficacité, tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est super, peut-être qu'il faut faire attention. Donc ça venait d'études qui montraient que les fumeurs faisaient moins de risques sévères que les autres. Mais
peut-être, justement. Et justement, je crois qu'il y a de nouvelles données qui ont été publiées sur le sujet récemment. Et finalement, ce n'est pas aussi clair que ça.
Oui, alors entre-temps, on avait fait d'autres études en se disant est-ce que c'était la nicotine qui permettrait de protéger. Donc on a donné de la nicotine à des non-fumeurs qui avaient une forme de Covid pour voir est-ce que ça allait les protéger. Bah, finalement, pas tellement. Et là, on a ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire des études d'études.
On
a regroupé plein d'études ensemble. Là, il y en a près de 50, 32 000 malades, des fumeurs, des non-fumeurs. Et on a cherché à savoir si jamais on faisait une forme plus grave en cas de tabac ou pas. Eh bien oui, vous avez deux fois plus de risques de faire une forme sévère lorsque vous fumez. Et si jamais vous êtes un ancien fumeur, vous avez 25% de risque en plus de faire une forme grave. Donc oui, le tabac, d'une façon générale, c'est dangereux. Et dans le Covid, ça l'est tout autant. Donc c'est absolument pas un remède. Au contraire, c'est un poison, il faut bien en avoir conscience parce que on a pu porter un message de confusion. Et moi, je m'inclus dans
Les fumeurs se sentaient protégés un petit peu à un moment donné, hein, mais même si fumer, c'est jamais bon, justement. Est-ce que, Jimmy, comme le tabac, il y a eu d'autres choses qui ont circulé? On a pensé qu'il y aurait peut-être des traitements préventifs. Est-ce qu'il y a d'autres substances que le tabac qui peut-être nous protégerait de la Covid?
Pour l'instant, aucune molécule n'a fait preuve de son efficacité. Il y a plein de tests. On teste des molécules, vous savez, l'interféron, les molécules responsables de l'inflammation. On a essayé ça, ça ne marche pas. On a essayé certaines familles d'antidépresseurs aussi, ça ne marche pas. On n'a jamais mis autant d'argent et d'énergie dans la recherche d'un traitement.
Du tout.
Il n'y en a pas. L'espoir viendra peut-être d'un vaccin et d'une façon générale, même si jamais le tabac protégeait du Covid, malheureusement, ça va vous entraîner tellement d'autres maladies, de maladies de cancer du poumon, cancer de la gorge,
chaque année,
cancer du sein.
Voilà.
Exactement.
Ouais.
Et on a du mal à le comprendre, mais le tabac tue plus que le Covid et continuera de tuer plus que le Covid, puisque, encore une fois, cette infection, on en a pour quelques mois, peut-être encore un an, on ne sait pas, mais on va finir par s'en sortir. Or, le tabac, comme les autres toxiques, c'est toute la vie. Et donc, il ne faudrait pas prendre de mauvaises habitudes actuellement pour ensuite les payer toute sa vie. Donc, pour l'instant,
donc
aucun traitement efficace.
Donc, on arrête de fumer en novembre, en plus. C'est
exactement.
Le mois. Même si cette année, on a l'impression qu'on en parle un peu moins de ce mois sans tabac, c'est l'occasion, ça vaut le coup de se lancer, Jimmy. C'est
exactement.
Jamais trop tard pour arrêter de fumer.
Exactement. Est-ce que les études montrent que si jamais vous êtes accompagné, vous augmentez vos risques, vos chances, pardon, d'arrêter le tabac? Donc, essayez de le faire, déjà d'en parler avec votre médecin traitant. Il faut avoir envie d'arrêter de fumer.
N'hésitez pouvez... à consulter aussi un tabacologue
exactement.
Si besoin.
Et puis, si vous essayez que vous ratez, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, vous allez, comme vous, Mélanie.
Cinq tentatives pour y arriver.
La cinquième était la bonne pour vous, donc vous êtes le bon exemple. Donc on peut y arriver, donc je vous invite tous à le faire. Si vous en avez envie, aucune contrainte évidemment.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Jessica, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Sébastien Garçon qui va tout nous expliquer sur l'abdominal etching, une intervention qui permet de sculpter ses abdominaux, d'avoir les fameuses tablettes de chocolat. Jimmy est dans les starting blocks et je suis sûre que ça vous intrigue. Alors on y vient très vite. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité dans ce studio pour le dossier du jour. C'est vous, Sébastien Garçon, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Et donc avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser à une opération de chirurgie esthétique dont moi en tout cas, j'avais jamais entendu parler. Alors Jimmy non plus, mais du coup il est ravi parce qu'il se sent très très concerné par le sujet. On va parler de l'abdominal etching. Alors pour commencer, docteur Garçon, c'est quoi cette... Parce qu'en plus c'est en anglais, donc qu'est-ce que ça veut dire en français pour ceux qui ne comprendraient pas?
Alors si on veut traduire littéralement, en fait, c'est de la gravure au niveau de la zone abdominale. Donc l'idée, c'est de redessiner des choses qui ont eu existé, mais qui n'existent plus. Et du fait de la demande de nos patients pour justement recréer des choses attrayantes au niveau musculaire.
Ça n'a rien à voir avec l'abdominoplastie. On avait déjà fait une émission ici sur ce sujet-là. Ce n'est pas la même intervention.
Alors,
hein.
Oui, non, justement, ce n'est pas une abdominoplastie. Il faut comprendre que la liposuction qui a été inventée dans les années 70-74 par Dr Illouz, un Français, c'était la liposuction. L'abdominoplastie combine souvent la lipoaspiration avec une incision qui permet d'enlever une partie plus ou moins importante de peau et de graisse qui est excédentaire au fur et à mesure de la vie de chaque patiente ou de patient. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une lipoaspiration. Donc, c'est quand même une opération. C'est une lipoaspiration, mais dont il y a certains raffinements qui sont ajoutés par rapport à une lipoaspiration classique de manière justement à faire cet aspect de gravure.
Oui, Jimmy, vous allez être bientôt gravé.
J'ai hâte. Parce que justement, donc vous parlez de lipoaspiration, c'est un truc un peu comme de haute définition, de haute précision, parce que on pense à l'hipoaspiration classique de la hanche. De façon homogène, on va essayer de tout aspirer, alors que là, vous taillez, c'est ça, on essaie vraiment d'aspirer en fonction des zones.
Oui, bonjour Jamy. Du coup, en fait, vous avez raison, on parle de haute définition. Sachant que le concept de haute définition en lipoaspiration, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, où certains confrères, en particulier colombiens, sud-américains, avaient beaucoup communiqué là-dessus, avec des résultats qui étaient très beaux, in fine, lors de nos communications, avec vraiment un aspect enfin, musculaire.
Ça ressemble à des muscles, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Enfin, on voit un bodybuilder quelque part au bout du bout, quoi. Donc, c'est clair que quand vous prenez quelqu'un qui avait des surcharges disgracieuses à certains endroits et à la fin, vous avez un côté bodybuilder.
Regardez Jimmy, là, je vous vois
cibler. D'un coup, je me réveille. Je crois que je n'ai jamais été autant passionné par un invité parce que ça veut dire qu'on ne peut ne pas faire de sport et avoir des tablettes de chocolat.
C'était un peu ça la promesse, oui, effectivement. Il s'est avéré qu'avec le temps et le recul, la haute définition en tant que telle, Estelle, comme toujours dans toute technique, au début, on essaie de l'offrir à plein de monde. En fait, il faut cibler au maximum les personnes qui sont le mieux pour pouvoir réaliser ce geste avec un bon résultat. On ne peut pas le faire à tout le monde, à toutes les indications. Mais il y a eu une évolution justement de cette haute définition vers une définition qui est toujours présente, moins agressive dans le mauvais sens du terme, mais qui permet justement de faire des reliefs intéressants.
Alors l'abdominal etching, est-ce que c'est nouveau comme technique? Parce que c'est vrai, on vous le disait, on n'avait jamais entendu parler avec Jimmy de cette intervention. Depuis quand ça existe? Depuis quand on en pratique en France en tout cas?
Alors, je vais dire, ça a plus ou moins toujours existé. Maintenant, il y a eu, effectivement, grâce aux réseaux sociaux surtout, il y a eu une popularisation qui s'est faite. La patientèle est à grande majorité masculine. L'idée, c'est de retrouver, justement, comme vous l'avez dit, les tablettes de chocolat.
Les tablettes perdues, cachées, dissimulées.
Ce qui n'est pas toujours évident de les retrouver, même quand vous faites une lipoaspiration. Une lipoaspiration, si vous n'avez pas une activité, une hygiène de vie très importante derrière, c'est très compliqué d'avoir les tablettes de chocolat que vous aviez quand vous étiez jeune. Et donc, l'idée, progressivement, ces deux, trois dernières années, effectivement, ça s'est vraiment popularisé via les réseaux sociaux qui ont fait écho de cela.
Donc, c'est plutôt des jeunes qui viennent vous voir, c'est ça? Moi, j'ai 30 ans, c'est déjà trop tard, en fait.
Je ne peux plus rien faire. On peut faire quelque chose pour
vous? Non, pas du tout. Non,
c'est un bon client, enfin, je veux dire, un bon patient, Jimmy. La trentaine.
Un peu de bide.
Un peu, mais début.
Non, en fait, c'est pas forcément des jeunes. C'est des personnes masculines qui ont eu leur vie, qui ont un travail, qui se sont.
Plutôt quadra, alors.
Voilà, on va commencer plus à cibler cela. Ils ont eu leur vie, ils ont eu du stress, ils ont profiter d'une certaine manière et ils se reprennent en main. Donc ils revont à la salle de sport, ils refont du sport, ils reprennent une hygiène de vie, mais malheureusement ça ne fait pas forcément tout pour arriver à leur image finale.
Oui, mais pourquoi ils veulent faire ça d'ailleurs? C'est un côté, puisqu'on associe souvent tablettes de chocolat à la musculation, à la virilité. Si on veut s'affirmer plus en tant qu'homme, en fait j'ai du mal à comprendre le but ultime, autant les prothèses, les seins, on peut comprendre l'image extérieure qu'on renvoie, mais les tablettes de chocolat,
personne ne les voit sur la plage, ouais, on était.
Ah oui, c'est vrai.
c'est toujours personnel. D'accord, la démarche est personnelle. Chacun voit midi à sa porte, et à partir de là, c'est clair que l'image que l'on cherche à extérioriser, c'est l'image que l'on a en soi. Et si elle n'est pas conforme, celle qu'on émane avec celle que l'on a en soi, on est en distorsion par rapport à cette image et on se sent pas à l'aise. Donc l'idée de ces personnes, c'est de se retrouver dans une image dans laquelle ils se trouvent dans leur tête, mais pas dans leur corps. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et après, c'est dur d'arriver à cette image. Et après, c'est vrai qu'il y a un côté social.
Il y a vraiment que des hommes ou il y a des femmes qui viennent pour faire ces tablettes de chocolat, enfin cet abdominal etching?
Il y a des femmes, mais on est moins agressif.
Enfin, pour être plus athlétique, c'est ça le désir pour le coup féminin?
Le côté bodybuilder n'est pas forcément recherché par nos patientes. Et peut-être le côté des musculatures super, hyper dessinées plus recherché chez les hommes.
Du coup, il faut quand même être un peu sportif, un minimum. On ne peut pas venir sans aucune activité physique. Il
faut qu'il y ait des tablettes à aller chercher, quoi, ouais, non, au fond de tout ça.
Il y a une base quand même à avoir.
Dans l'absolu, dans la prise en charge globale, c'est mieux d'avoir une hygiène de vie et faire du sport pour entretenir justement votre résultat in fine. Après, il y a beaucoup d'anciens sportifs de plus ou moins haut niveau qui avaient leur corps et puis ils ont arrêté leur activité et ils se retrouvent comme un peu tout le monde à anaboliser et ils prennent du volume à des endroits ciblés comme tout le monde.
Mais chez un homme en surpoids, ça fonctionnerait pas, c'est ça que je veux dire. Et aussi, on est vraiment gros ventre, vous n'allez pas faire des miracles non plus. Quoi.
Les hommes, par rapport aux femmes, on va stocker plus de graisse en rétromusculaire. Donc on est androïde et à partir de là, on va stocker à l'intérieur. Quand vous avez une expansion de la paroi abdominale avec un hypervolume intra-abdominal, c'est pas cette chirurgie qui est adaptée pour eux. C'est pas la liposuction qui va les rendre bodybuildés. Non, il faut quand même avoir une hygiène de vie et avoir un poids
stable et raisonnable. Docteur Garçon, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons entrer dans le vif du sujet, passer au bloc opératoire. Comment se déroule dans le détail cette intervention, l'abdominal etching? Comment se déroule chaque étape? Que fait précisément le chirurgien sur le ventre, sur les abdominaux du patient? On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité en studio avec nous aujourd'hui, c'est vous, docteur Sébastien Garçon. Vous êtes chirurgien plasticien et membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors quand on vient vous voir avec ce motif, je veux un abdominal etching, ça c'est ce que pourrait dire Jimmy d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous regardez d'abord s'il y a un homme d'une trentaine d'années, comme Jimmy, imaginons, arrive dans votre cabinet et vous dit « je veux des tablettes de chocolat, docteur ». Vous allez d'abord examiner, j'imagine, la peau. Enfin, qu'est-ce que vous regardez sur son corps, on va dire?
Oui, déjà, d'une manière générale, ça reste une opération chirurgicale. Donc, il y a toutes les précautions qui sont nécessaires de respecter. Il y a tous les antécédents à rechercher, effectivement, par rapport au geste et puis à l'éventualité d'une opération. Ensuite, au niveau de l'examen clinique, forcément, on va voir si le patient n'est pas en surpoids, comme on l'a dit précédemment. S'il est vraiment en surpoids, en surcharge pondérale, il y a des choses préalables à faire.
C'est pas une hypoaspiration. Ce qui n'est pas son cas, lui, c'est un bon... Non, mais là, pour le coup, je vous prends un exemple très sérieusement.
Il n'est pas du tout en surcharge
pondérale.
Si c'était
un souhait, il a une bonne... Non, mais c'est le bon client quoi, pour ce genre d'intervention, c'est ça?
Voilà, on peut envisager comme patient.
Très bien, d'accord.
Jimmy Mohamed.
Imaginons.
On fera une émission spéciale poil au menton, Mélanie, vous verrez, vous aurez plein de petits conseils aussi. On regarde le poids, est-ce qu'on regarde peut-être aussi la qualité de la peau, non? Est-ce qu'on
est tout à fait, ouais. La qualité, il peut y avoir, ça peut être certains patients qui ont eu du poids au décours de leur vie et qui ont perdu de manière assez massive beaucoup de poids et qui ont perdu une certaine élasticité au niveau de leur peau. Et ça, c'est des critères qui sont à prendre en compte, justement pour savoir si on va avoir un redrapage suffisant pour avoir un résultat d'une qualité voulue, souhaitée.
Il y a certains médecins, je crois, pour avoir de plus d'abdominaux qui mettent les hommes sous testostérone. Ça fait un bon résultat, je crois, mais c'est interdit en France. Hein.
Oui, voilà, c'est toute la controverse, comme vous avez parlé au début là, sur la haute définition. On avait de très beaux résultats présentés, mais bien souvent, il y avait le quid qui n'était pas forcément mentionné de l'hormonothérapie derrière. Donc,
ah oui, il triche un peu là-bas, d'accord.
Donc c'était toute la difficulté de se faire la part des choses entre qu'est-ce qui est réalisé par le geste opératoire en lui-même et qu'est-ce qui est réalisé ensuite par l'hormonothérapie derrière. Et ça, c'est là, il y avait une petite distorsion. Donc c'est clair qu'en France, bon, le testostérone, c'est pas recommandé en tant que tel, juste pour avoir une tablette de chocolat. Par contre, c'est clair que ces dernières années, il y a eu des évolutions technologiques dans nos blocs opératoires qui ont permis justement d'apporter une réponse pour recréer justement cette gravure des abdominaux.
Bon, ensuite, on passe au bloc opératoire. Ça se fait sous anesthésie générale, je suppose. Et vous faites quoi? Vous avez dessiné sur le ventre les abdominaux que je n'avais pas jusqu'à présent, en espérant peut-être les revoir.
Voilà, il y a toute une phase, la phase pré-bloc où il y a les dessins. Votre chirurgien va vous faire les dessins justement pour marquer les reliefs.
Voilà, seront là les tablettes.
Les reliefs, la prise d'ombre, de clarté. On redessine effectivement la musculature sur la peau de manière à nous guider.
Au stylo,
justement,
quoi, au feutre. Hein,
au feutre, voilà, exactement. Et après, effectivement, en général, c'est sous anesthésie générale. Ça peut être envisagé sous une rachie anesthésie éventuellement, si c'est...
Il faut avoir envie quand même, vous en avez qui demandent vraiment ça.
Il y a des techniques, oui, qui permettent de remonter un petit peu la rachie anesthésie de manière à avoir sous les côtes là, bloqué.
Mais en général, c'est sous anesthésie générale. Ouais. Et une fois le patient endormi, comment vous allez procéder d'abord? Donc, vous avez dit, vous faites des petits coups de crayon avant là, pour dire où est-ce que vous allez... opérer. Donc c'est quoi? On rentre des canules? Enfin, ouvrez? Comment ça se passe?
On fait des petites ouvertures. Ça reste une hypoaspiration. Donc grosso modo, en moyenne, ça va être 4 mm.
Oui,
à partir de cela, c'est une addition, le résultat, une addition de soustraction et d'addition de volume. Alors, on va faire une hypoaspiration de manière, on va dire, classique. Et ensuite, sur les zones où on doit redessiner des sillons, on va faire une hypoaspiration ciblée, plus agressive, plus superficielle.
Donc des trous et des bosses, en fait, c'est ça?
C'est plus des lignes que
d'accord,
des trous.
Okay.
Le but, c'est pas de faire de l'emmental.
Vous aviez une bite, Jimmy, maintenant vous avez un bite en emmental.
L'idée, c'est de faire des lignes, dessiner des lignes qui correspondent justement à l'insertion musculaire de la tablette de chocolat, qui sont les lignes de fascia, en fait.
En fait, c'est le gras qui va rester, finalement, c'est la graisse qui va être sculptée.
La zone qui est en regard des limites du muscle va être affinée suffisamment de manière à faire une adhérence entre la peau et la partie musculaire profonde, de manière à faire un sillon. Et ce sillon, visuellement...
Parce que des abdos, tout le monde en a quand même, même si on ne les voit pas, on est d'accord, on peut aller les chercher dessous.
Exactement, tout le monde en a. Et donc cette soustraction au niveau des limites des bandes musculaires va permettre de visualiser de l'extérieur le dessin des muscles.
Est-ce qu'on peut, par le même temps, essayer de redessiner un peu les pectoraux? J'ai un ami qui serait peut-être intéressé par remettre, retrouver des pectoraux d'une époque.
Le frère du cousin de ma sœur.
Oui, un ami. C'est le secret médical, je ne peux pas dire qui c'est, mais même autre chose au niveau des épaules et des bras, on peut faire un petit truc.
Les pecs, ça peut être pas mal.
Ouais. Voilà, exactement. Oui, donc ça, c'est la possibilité. On sait transférer, on fait une greffe de graisse. C'est qu'avec l'hypoaspiration, ce que l'on enlève, on le récupère dans le même.
Vous l'enlevez dans le ventre, vous le remettez dans les pecs,
voilà,
c'est possible.
Rien
ne se perd en plus, c'est génial.
C'est très écolo. On recycle la graisse que l'on a enlevée à un endroit qui était en trop grande quantité. On va la préparer de la manière à la greffer dans des zones qui le nécessitent. Donc effectivement, les pectoraux, c'est une zone de demande qui permet de réétoffer la zone pectorale si elle n'est pas assez musclée. Également au niveau des deltoïdes.
Quand on fait que les abdominaux, ça prend combien de temps? On bloque tout ça?
Oh, ça va être entre 2-3 heures.
Parce que c'est un travail de sculpture presque, c'est long quand même, c'est de la précision.
Voilà. Ouais. Alors après, au niveau du matériel, il y a eu des évolutions. Au niveau, vous avez des lipoaspirations avec des canules qui sont motorisées, qui permettent de gagner en temps et en précision. D'accord. Vous avez des systèmes qui envoient de l'énergie, ça peut être des lasers, on appelle des endolasers. Ça peut être des plasmas aussi, c'est un jet de gaz qui n'est pas enflammé, mais qui est incandescent, qui permet de chauffer la face profonde du derme de la région, qui va permettre un redrapage justement pour contrôler la rétraction cicatricielle derrière.
Docteur Garçon, si jamais je vous vois un jour en consultation et qu'on fait cette intervention, est-ce que j'aurai des abdos en béton armé? Est-ce que par exemple un tracteur pourra me rouler dessus et je survivrai?
Est-ce qu'on devient plus costaud vraiment, quoi? Il va être un super héros, je crois.
En fait, vous aurez l'impression dans la glace de l'être.
Mais vous ne serez pas du tout.
Oui, mais dans la tête, je le saurais. Donc
mais rien n'empêche de travailler ses muscles, parce que le travail musculaire, voilà, cette opération ne fait pas travailler les muscles, mais rien n'empêche de faire un travail musculaire derrière.
Très bien, docteur Garçon, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le docteur Sébastien Garçon qui est en plateau avec nous aujourd'hui. Vous êtes chirurgien plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors docteur, il y a quelques minutes, on a un petit peu détaillé finalement comment ça se passe au bloc, cette intervention, l'abdominal etching. Pour sculpter les abdos, donc on prend, vous avez dit, ça prend 2-3 heures au bloc. Est-ce qu'il y a des risques quand même à cette intervention? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que, j'en sais rien, des complications possibles, au moins les plus fréquentes en tout cas?
Alors, il y a des complications qui sont un peu génériques à la lipoaspiration, c'est-à-dire qu'on prend la prévention par rapport à un risque de phlébite, pour ne pas faire d'embolie pulmonaire, ça c'est la première chose.
Qu'on fasse les abdos ou la culotte de cheval,
toute chirurgie
c'est toujours
de la ceinture, et en particulier de la lipoaspiration, est à risque de développer une thrombose profonde veineuse. Et à ce stade, on met des bas de contention, voilà, si on n'a pas traité les membres inférieurs. Et en post-opératoire, il y aura des piqûres
d'anticoagulants
à réaliser pendant 10-15 jours.
Donc un risque que vous maîtrisez bien quand même, que vous savez gérer.
Donc ça, effectivement. Après, il y a des risques de technique qu'il faut éviter. C'est une canule que l'on met dans une zone, il y a la cavité abdominale, donc il ne faut pas perforer la cavité abdominale. Ça, c'est rarissime.
C'est rare, oui.
C'est rarissime, mais ça fait partie des choses à surveiller en post-opératoire. Et ensuite, de manière ciblée sur le etching, c'est la phase de cicatrisation pour bien vérifier que justement les zones que l'on a redessinées cicatrisent de manière correcte.
Justement, une fois qu'on a fait cette intervention, vous avez dit 2 à 3 heures au bloc opératoire. Vous avez quand même informé de ce qu'on rigole depuis tout à l'heure, mais des risques. Toute chirurgie impose un risque et donc une surveillance. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On rentre à la maison ou on est hospitalisé quelque temps?
Alors, si c'est très limité, tout dépend de la quantité de travail qu'il y a à faire, la quantité à aspirer et à redessiner. Si c'est très limité, ça peut être envisagé en ambulatoire. Voilà. Le patient
est revu dans les soins.
Voilà.
Ouais.
Après, en général, souvent, si c'est assez important, il passe une nuit en surveillance et la patiente va ressortir le lendemain.
Et donc on ressort le lendemain, le patient, plutôt ce sont des hommes, vous avez dit, dans la majorité, avec un pansement, j'imagine, des gros pansements.
Voilà.
Enfin, à quel point?
Après, chaque chirurgien a un peu son savoir-faire là-dedans. Ça peut être des pansements qui sont assez volumineux avec carrément de la mousse qui va venir mouler les zones que l'on a redessinées.
Et ça, on garde ça combien de temps?
Qui va faire une empreinte, comme l'empreinte en fait, de ce qui a été dessiné et qui va être gardée pendant une semaine. Donc c'est quelque chose, on est assez costaud parce qu'on se retrouve avec cette mousse qui dessine les démarcations, plus la gaine par-dessus. Donc ça tient assez chaud. Ouais. Mais pendant une semaine, ce pansement va être gardé et va être enlevé au bout d'une semaine.
Du coup, c'est une intervention qui reste douloureuse quand même, ou finalement on s'en sort pas trop mal?
Au niveau du ventre quand même, j'imagine, au réveil, ça va pas être...
Alors, c'est pas si douloureux que ça, c'est variable en fonction des patients, sachant que voilà, il y a une prise en charge de la douleur qui est réalisée pour chaque patient, donc qui est adaptée en fonction de chacun.
Les antalgiques et tout ça, donc ça vous...
Exactement.
Et tant qu'on a la gaine, on prend pas de douche du coup? C'est bête hein, comme question. Mais
alors, au tout début, ouais, c'est sûr.
Parce que donc, il y a le pansement, la gaine, expliquez-nous, la gaine, c'est quelque chose qu'on porte qui va de sous la poitrine, en gros, jusqu'aux jambes, c'est ça?
Voilà,
c'est compressif.
Au niveau de la hanche, ouais. Ça sert assez fort, plus ou moins fort, tout dépend des habitudes.
Quand on va aller aux toilettes, tout ça, on fait comment?
Non, il y a un entrejambe quand même.
Ah, il y a un trou, d'accord.
Voilà. Vous avez l'entrejambe,
justement. On a des questions pratiques.
Non, vous êtes libre, justement, de ce côté-là, heureusement. Mais c'est vrai que la première semaine, voilà, c'est un peu la toilette de chat que l'on va faire. Et ensuite, au bout d'une semaine, voilà, des douches sont tout à fait possibles.
Et d'ailleurs, pourquoi la gaine, d'ailleurs? Pourquoi? Pour comprimer, pour éviter quoi? D'œdème, de...
Alors, elle est là pour plusieurs raisons. Ça comprime les choses, ça évite d'avoir, de laisser un espace mort qui pourrait s'auto-amplifier, même si le principe même de la lipoaspiration, c'est de ne pas faire d'espace mort. On garde les travées conjonctivales, donc on ne peut pas créer de décollement, faire un morel lavalé, comme on dit en médecine. Mais c'est pour éviter des collections lymphatiques, on appelle sérum, ou éventuellement collections de sang.
Alors attendez, collections, tout ça là,
du liquide, éviter voilà. Des collections.
Voilà, ça ne peut pas faire des bosses.
Liquide,
des...
Une poche, ouais, si vous voulez.
Okay,
une poche dans laquelle un liquide se collecterait.
D'accord. Et donc, on porte ça nuit et jour, cette gaine, pendant un mois
vous... Non,
un mois. Donc, voilà. Après que. Donc, nuit et
après
jour. Ok. La gaine, donc, ça veut dire que dessous, on est quand même gonflé, même si la gaine compresse. On va être gonflé pendant combien de temps au niveau du ventre avant d'avoir le résultat, finalement?
Alors, lors de l'ablation de la mousse, on voit vraiment. Le patient va se rendre compte quand même du résultat.
Ils sont là, les abdos, déjà? Ouais,
voilà,
ça, on
ils
les
sont
voit.
Déjà, ils sont déjà visibles, marqués. Mais ils vont s'affiner, ils vont s'améliorer avec le temps qui passe et les semaines qui passent. C'est clair qu'il y a une phase d'œdème. La lipoaspiration est un peu frustrante parfois pour le patient parce que ça prend du temps à se mettre en place. Mais au bout de 3-4 semaines, les choses vont commencer vraiment
déjà,
se mettre en place.
Vous avez parlé d'incision de 4 mm, mais est-ce qu'il y a des cicatrices visibles? Est-ce qu'ensuite, une fois qu'on va à la plage, eh bien, ce sera visible qu'on a fait ce type d'intervention.
Alors, ce sera discret. Non, non, voilà, les tablettes sont d'origine.
Le but du jeu, en fait, c'est de faire en sorte que, justement, les cicatrices, si elles avaient, devenaient visibles, elles soient cachées dans l'habillement du patient. Donc, on va les mettre assez bas, dans une zone voilà,
du slip, du boxer,
enfin, voilà, des sous-vêtements, de manière à ce que ça soit le plus discret possible, ou dans des zones anatomiques où on est juste à une transition d'une zone esthétique pour que ça soit le moins perceptible possible.
Bon, donc, on ne voit pas grand-chose.
Oui, on est opéré de l'appendicite, ça marche toujours. Personne ne sait où c'est, de toute façon.
Pendant combien de temps, quelles précautions on doit prendre derrière? Je veux dire, j'imagine qu'il ne faut pas porter de trucs lourds, il ne faut pas qu'on nous donne des coups dans la zone. Pendant, on va garder une fragilité. Des précautions pendant combien de temps?
Voilà, toute la difficulté, c'est plus l'accompagnement, expliquer aux patients que le sport, ce n'est pas pour tout de suite.
On ne se met pas à faire des abdos le lendemain, hein,
voilà,
on est d'accord.
Ils n'auront pas forcément envie de faire des abdominaux tout de suite, mais il faut se donner un petit peu de temps, justement. Tout ce qui est sport avec des percussions, ça c'est le plus important. On se donne bien un mois et demi. Parce que le jogging, la course à pied, maintenant il y a plein de gens qui font ça. Mais c'est vrai que ça donne des impacts qui ne sont pas forcément bien vécus ensuite au tout début.
C'est quand le meilleur moment pour le faire, si on veut espérer
si on a vraiment envie d'essayer de
voir, si on connaît quelqu'un qui aimerait cet été sur la plage avoir un peu des abdos, est-ce
là on
que
est quoi, on
c'est
en
quoi,
novembre
c'est
il faut qu'il fasse ça quand Jimmy
quelqu'un veut,
oui, quelqu'un. L'ami de Jimmy qui veut qui est intéressé.
Bah là on est dans la bonne période, sachant que voilà, il faut se donner 3-4 mois derrière pour se sentir vraiment à l'aise et pouvoir profiter de son résultat. Après c'est quand les gens le peuvent également, parce que c'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Voilà,
donc,
je vais vous demander combien ça coûte tout ça en moyenne.
En moyenne, les fourchettes,
les prix ne sont pas les mêmes
entre
partout.
4 500 et 6 000 euros, voilà, tout compris. Maintenant, voilà, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, on ne peut pas faire d'arrêt de travail pour
pendant des vacances,
pour
c'est
cela.
Mieux.
Donc les gens le font quand ils ont la liberté de pouvoir le faire aussi.
Merci beaucoup, docteur Garçon, d'avoir été avec nous pour cet éclairage très intéressant sur cette intervention qu'on ne connaissait pas. Jimmy a tout bien noté, on a vu ça, c'est parfait. Merci encore, docteur. Dans un instant, nous ferons un focus sur le spina bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale. Jimmy nous expliquera ce que c'est, comment on dépiste ce problème durant la grossesse. Et puis, vous verrez que c'est une malformation dont on peut diminuer le risque grâce à certains compléments. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors dans Sans Rendez-vous, vous le savez, on prend soin de vous. On vous informe aussi sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Aucune question n'est tabou ici, soyez-en certains. Et donc cet après-midi, on a choisi de répondre à Jean qui nous a laissé sa question au 3921 sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour à l'équipe, bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je sais que vous parlez un peu de tout dans l'émission et à propos des enfants, moi j'avais une question sur le spina bifida. J'aimerais comprendre ce que c'est, surtout comment on le détecte et quelles sont les conséquences pour le bébé et Est-ce que ça peut se soigner d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui, pris relativement tôt, se soigne? Ou est-ce qu'au final, on le garde à vie? Merci pour vos lumières. À bientôt. Au revoir.
Bon, Jimmy, ça va être un sujet un petit peu lourd, mais on est là aussi pour faire de la pédagogie sur des sujets qui vous préoccupent, évidemment. Donc, on va commencer par le début, hein, le spina bifida. Jimmy, expliquez-nous physiologiquement ce qui se passe.
Alors, tout d'abord, c'est la deuxième maladie rare, la plus fréquente. C'est une naissance sur 1000.
Ah oui,
donc, c'est
même
pas rien pour autant. C'est une anomalie au niveau de la colonne vertébrale. Durant la grossesse, vous avez la colonne vertébrale qui va se former. Les vertèbres vont s'empiler les unes sur les autres, au travers duquel va passer un canal, le canal rachidien. Dans ce canal, va passer des câbles électriques, les nerfs. Ces nerfs, normalement, ils sont bien protégés, justement, par la colonne. Sauf que, dans le spina bifida, il y a une fermeture incomplète à ce niveau-là, ce qui fait que les vertèbres ne protègent plus tellement la moelle épinière et vous avez, en quelque sorte, les nerfs qui vont sortir et former
un
sac.
Ça vive, c'est ça. C'est
exactement,
ouvert.
Ça va ressortir. Et ça va entraîner des conséquences chez l'enfant lorsqu'il va naître. Et puis, il y a aussi parfois d'autres anomalies. Je vous ai parlé des câbles, des faisceaux qui passent dans ce canal. C'est entouré d'un liquide, le liquide céphalo-rachidien. Eh bien, ce liquide peut être en trop grande quantité dans le cerveau, entraînant une hydrocéphalie. Donc, c'est une maladie qui est rare, mais malgré tout grave, et qu'on traite pour l'instant pas tout à fait comme il faut.
Alors justement, Jimmy, les complications qu'engendre le spina bifida, dépendent, j'imagine, quand même de la localisation, parce que là, vous avez décrit un petit peu ce que c'était, mais ça peut être à différents niveaux, j'imagine.
Exactement.
De la colonne vertébrale, ça peut être plus ou moins grave.
Exactement.
Hein,
plus cette malformation est haut située, plus il va y avoir de retentissement sur la qualité de vie et sur les fonctions
Donc,
motrices.
Plus haut c'est dans la colonne vertébrale. Hein,
exactement,
c'est ça,
parce que plus on est haut, plus ça va paralyser le bas qui reste.
Et oui.
Donc si c'est une atteinte toute distale, c'est-à-dire tout en bas, on va avoir une forme légère, comme simplement certains enfants qui vont avoir une anesthésie cutanée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sentir le chaud ou le froid, simplement ça. Et parfois, ils vont se couper sans sentir la douleur. Mais plus on remonte, plus les atteintes motrices vont être sévères.
Avec des handicaps lourds. Hein,
exactement. Et d'une façon générale, les enfants auront tous des troubles de la vessie, ils vont moins bien contrôler leurs urines, et aussi des troubles digestifs. Et puis, dans les formes plus graves, eh bien, il y a une atteinte motrice, c'est-à-dire des enfants qui ont du mal à marcher, qui resteront en situation de handicap.
Jimmy, en général, on découvre ça à l'échographie pendant la grossesse, c'est ça ?
Exactement, c'est lors des 3 échographies qu'on fait.
On surveille ça de près.
Souvent, entre la 16e et 20e semaine de grossesse, on arrive à l'identifier. Et parfois, certains opérateurs arrivent à l'identifier à la 12e semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines anomalies ne sont jamais détectées lors de l'échographie. On les trouve à la naissance, notamment lors des spina bifida qui sont mineurs, qui entraînent peu d'impact sur la qualité de vie.
Et donc, c'est quoi les causes d'ailleurs de cette malformation finalement ?
À ce stade, on n'a aucun facteur de risque clairement identifié. On a des pistes génétiques ou alimentaires, mais on n'en est pas sûr.
Donc, ça serait multifactoriel.
Exactement, parce qu'on s'est rendu compte une chose, c'est que les mamans qui avaient des bébés atteints de spina bifida avaient un faible taux d'acide folique dans le sang.
C'est un moyen de prévenir ce risque.
Sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait des jumeaux avec un des deux qui va avoir un spina bifida et l'autre pas. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore de vraie explication sur l'origine de cette maladie.
D'accord. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut diminuer le risque de survenue de ce spina bifida en complémentant la future maman, c'est ça ?
Exactement.
Avec cet acide folique, cette vitamine
c'est
B9.
C'est ce qu'on donne, c'est la speciafoldine. On donne un mois avant le début
Même
de grossesse.
Même avant la conception, hein,
exactement,
c'est conseillé,
dans le cadre
bien sûr.
Du projet de grossesse. Sauf qu'en France, c'est simplement 10% des femmes qui ont cet acide folique.
Exactement.
Alors qu'aux Pays-Bas, 50% des femmes ont ces vitamines.
C'est un
ça
petit
veut dire
comprimé
que
à prendre tous les jours. Enfin,
exactement,
c'est pas
un comprimé par jour d'une vitamine qui n'a aucun effet secondaire. Donc si jamais vous avez un projet de grossesse, quel qu'il soit, même s'il ne l'aboutit pas tout de suite, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme, et à ce moment-là, on vous mettra automatiquement
avant même la conception
sous ces vitamines pour limiter ces malformations, car on sait que ça, c'est un facteur déterminant et qu'on peut peut-être améliorer les choses comme ça.
Très bien. Et Jimmy, on peut en trouver dans l'alimentation aussi de cette vitamine. Bon, c'est
exactement,
mieux
mais
cette
il faut systématiquement la supplémentation. L'apport dans l'alimentation n'est pas suffisant pour couvrir les besoins. On en a besoin un peu plus pendant la grossesse.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 pour la santé, le bien-être et la sexo. Nous sommes avec vous depuis 15h et donc c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio pour nous rejoindre. Catherine Blanc est sexologue et psychanalyste et aujourd'hui Catherine, on a une question de Marie, on l'écoute tout de suite.
Bonjour Catherine, je vous téléphone. En fait, ma fille de 17 ans est sur les réseaux sociaux et je viens de voir sur sa photo de profil qu'elle est en maillot de bain. Donc évidemment, elle est très jolie, c'est ma fille, mais j'ai peur un petit peu des pervers. Donc je voudrais savoir si je dois lui interdire ou bien est-ce que c'est sa liberté ? Merci.
Catherine, alors est-ce que, bon, enfin, c'est quand même légitime en tant que parent de s'inquiéter pour nos enfants, quel que soit leur âge. Elle dit que sa fille a 17 ans, surtout sur ce qu'ils font en ligne et sur les réseaux sociaux. Pour nous parents d'aujourd'hui, ça peut être très inquiétant, hein.
Bien sûr, parce que le problème, c'est que si c'est sa liberté de s'exprimer comme elle l'entend avec ses amis, etc., il faut d'abord aussi lui expliquer ce qui se joue, ce qu'elle provoque et pourquoi elle s'y réduit aussi. Parce que la séduction ne nous oblige pas à nous mettre en vitrine avec tout ce que nous avons. Alors aujourd'hui, c'est en maillot de bain, et pourquoi pas dans quelques années ou une génération plus tard, ça sera tout nu. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que la nudité, c'est pas bien, ça n'est pas parce que être en maillot de bain, d'ailleurs sur la plage, nous
on
le sommes tous,
voilà.
Et il n'y a aucun problème. C'est simple. Simplement, comment je fais pour me mettre en lien avec l'autre et pourquoi je me réduis à quelqu'un en maillot de bain. Alors bien sûr, il y aura, comme le dit très justement cette maman, il y aura potentiellement tous ceux qui sont des loups et qui vont essayer de chercher la proie facile, qui vont nourrir leur fantasme. Alors tant qu'ils nourrissent dans leur fantasme, dans leur tête, tant pis, ça ne regarde personne. Mais le fait est que cette jeune fille, elle a 17 ans, elle a l'idée de sa maturité, l'idée de sa liberté de choix, mais elle n'a pas toujours la conscience, surtout dans les faits de groupe, puisque les copines font pareil, etc. Elle n'a pas toujours conscience de ce qu'elle provoque. Et c'est ça qui est important, pas pour la culpabiliser, bien évidemment que non, pour simplement qu'elle reste actrice et libre de cette position d'actrice.
Oui, parce que sur les réseaux sociaux, il y a malgré tout des codes à respecter. Je ne sais pas, sur ma photo d'identité, je respecte les codes en montrant que mon visage n'est pas forcément le reste de mon corps. Ça veut dire que derrière ça, même si c'est sa liberté, qu'il y a quand même de la provocation dans ce qu'elle fait. C'est pas anodin de se montrer un peu dénudé. Alors on va dire qu'on est puritain et je pense qu'on va nous taxer de ne pas comprendre 2020 et qu'on n'est plus dans les années 50. Mais est-ce que malgré tout, derrière ça, ça reflète pas autre chose ?
Mais d'abord, ça reflète le besoin de faire partie de ses pairs et donc de son groupe à elle, de son âge à elle, avec leur code à eux. C'est-à-dire que ce qui est toujours curieux, c'est qu'il nous est toujours difficile en tant que parents d'accueillir ce que font nos enfants parce que nous n'avons pas les mêmes codes et parce que par essence, les enfants cherchent d'autres codes pour se démarquer du champ parental. Pour autant, il nous appartient de les prévenir de ce qui se joue. Parce que la question n'est pas tant ce dont elle a envie, c'est ce que fait son groupe ou ce qu'elle a, le sentiment qui pourra plaire ou qui sera le moyen de participer
mais
du groupe.
Mais il n'y a pas que son groupe sur les réseaux sociaux,
voilà.
Il y a aussi d'autres.
Et,
alors,
et du coup, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans un rapport de séduction et de provocation qu'elle n'assumerait pas nécessairement dans la réalité et qui du coup la mettrait en difficulté parce que tant qu'on est dansé avec ses potes, c'est une chose. Mais dès que ça sort du groupe, ça prend tout de suite une connotation qui peut être extrêmement anxiogène pour la jeune fille en question.
Mais est-ce que cette maman, Marie, donc, est-ce qu'elle a peur finalement aussi, parce que c'est une fille, on vient de faire une émission sur les tablettes de chocolat, un jeune garçon de 17 ans qui mettrait une photo de profil de lui torse nu avec les abdominaux flambant devant la pellicule, entre guillemets, ça choquerait peut-être moins.
Mais ça, c'est effectivement...
Et ça l'inquiéterait moins.
Ça serait encore une histoire... Pourtant, ça devrait être la même chose.
Bah oui, c'est-à-dire,
mais parce qu'il n'y aurait pas le risque potentiel d'être la proie de l'autre. Mais de toute façon, nous avons à expliquer à nos enfants qu'ils n'ont pas à se réduire à une image. C'est important qu'ils mettent en avant ce qu'ils sont de façon globale, leur personnalité faisant partie de cette globalité et pas simplement des corps à désirer. Parce que d'abord, ça ne fera pas aimer vieillir, mais ça, c'est pas le sujet prioritaire. Mais surtout, ça limite le regard que l'on a sur soi. Ça nous fait être en position d'objet au lieu d'être en position de sujet. Et je crois que ce que nous avons à apprendre à nos enfants, c'est de toujours réfléchir la position de sujet, justement.
Je pense qu'à titre personnel, si j'avais mes enfants de 17 ans, même avec leurs
ados,
peu importe, je pense que je serais
idées,
aussi perturbé. Et qu'est-ce qu'on fait à 17 ans? Parce qu'ils ne sont pas loin de la majorité, c'est presque une femme. Si c'est un garçon, c'est presque un homme à 18 ans. Est-ce qu'on leur interdit en lui disant, écoute...
Retire cette photo ou est-ce qu'on ne s'en mêle pas? Après tout, c'est intrusif. Hein,
parce que juste le fait de prévenir suffit, parce qu'ils vont dire oui, ils causent toujours. Souvent, les parents, ils ne sont pas très écoutés.
Non, ils ne sont pas très écoutés, mais je crois qu'ils ont besoin aussi de dire quand même les choses. Je crois qu'après, l'enfant va se mettre en risque et du coup, il va lui arriver les risques éventuels. Enfin, on ne lui souhaite pas, bien sûr, mais il va se confronter à la réalité. Mais c'est important que.
Mais ce n'est pas comme dire tu n'avais pas qu'à mettre une jupe. Vous voyez ce
non,
que je veux dire
voilà,
parce qu'après tout, ce n'est pas sa faute s'il y a des pervers sur Internet. Quoi.
Bien sûr. Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir. Ce n'est pas par rapport aux pervers, c'est par rapport à l'idée d'objet. Plus on se réduit à l'état d'objet, plus on se fait du mal soi-même, indépendamment de la possibilité d'être la proie des pervers. C'est bien ça le sujet, hein, surtout.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour, mais attendez, je me cache, on va faire une blague à Stéphane.
Vous êtes où ?
Je suis
on
là,
vous cherche partout.
Je suis là, Stéphane. Oh, je pense que l'Oscar est pour nous. L'Oscar est pour nous cette année, Stéphane. C'est le thème de notre émission du jour.
C'est le thème de l'émission. Des gens qui ont disparu un jour ou toujours sans qu'on ait jamais retrouvé leurs traces. Agatha Christie, la reine du polar. Oui. Louis-Aimé Augustin, le prince qui... Celui qui a inventé la caméra et le cinéma, mais personne ne le sait.
Personne ne sait, ça écoutez bien, c'est vraiment fabuleux.
Et puis moi, vous, votre copine, là, ou la femme de votre copain.
Oui, elle... où est-elle, je ne sais pas. Ri Seul-joo, la femme de Kim Jong-un, figurez-vous qu'elle a disparu depuis maintenant 9 mois. Tout le monde s'en fout, sauf moi. Mais moi, je vous en parle.
Très bien. Sa famille n'est pas inquiète.
Bon, très bien. Nous, on est là, on s'en va, on vous laisse la place. Tout de suite, c'est donc Mathieu Noël et Stéphane Bern. Et vous, restez bien sur Europe 1.